Il va falloir s'y faire. La Grande-Bretagne ne va plus faire bientôt partie de l'Union européenne. Mais problème, les leaders politiques semblent avoir du mal aujourd'hui à se décider à prendre la succession de David Cameron. Par ailleurs, les bourses de Paris, de Dublin, encore de Madrid, peuvent-elles encore profiter de ce Brexit et ramasser quelques miettes qui traînent et qui restent? Eh bien, nous en parlons ce soir dans le décodeur de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. David Dobat reçoit les décodeurs de l'écho.
Merci de nous rejoindre sur BFM Business pour les décodeurs de l'écho. Nous sommes ensemble comme tous les soirs et en direct, même cet été, jusqu'à 20h30. Dans une petite heure maintenant, eh bien, nous reviendrons sur le décès de Michel Rocard. Nous en parlerons avec Patrick Coquidet et avec Lionel Stoléru, ancien secrétaire d'État de Michel Rocard. Avec lui, eh bien, nous verrons notamment quelles traces et quelles traces économiques l'ancien Premier ministre a laissé dans l'histoire. Mais auparavant, rappelez-vous, c'était il y a 10 jours, hein, ce fameux Brexit. Un événement que nous vous avons fait vivre en direct sur BFM Business. Alors depuis 10 jours, il s'en est passé des choses. Hein. Les bourses, tout d'abord, eh bien, elles ont quasiment rattrapé leur retard, même si des questions se posent encore aujourd'hui sur la livre. Et des questions, justement, eh bien, elles s'en posent encore beaucoup, mais sur le plan politique désormais. La succession de David Cameron semble floue après la démission de Boris Johnson. C'est au tour de Nigel Farage d'annoncer qu'il quitte la tête de son parti. Du coup, on va parler très franchement, difficile d'y voir clair pour le moment sur l'échiquier politique. On fait le point avec Jean-Baptiste Huette.
24 juin dernier, au lendemain du référendum sur le Brexit, la Grande-Bretagne entre dans un tourbillon politique. Premier coup de tonnerre, le départ annoncé du Premier ministre David Cameron.
Je ferai tout mon possible en tant que Premier ministre pour stabiliser le navire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais ce ne serait pas approprié pour moi d'être le capitaine menant notre pays à sa prochaine destination.
Pendant que l'Europe entière s'interroge et s'inquiète, en Grande-Bretagne, la guerre de succession a déjà commencé. Parmi ceux qui ont fait campagne en faveur du Brexit, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres. C'est lui qui fait figure de favori pour succéder à David Cameron. L'homme se réjouit de voir le Royaume-Uni quitter l'Europe, mais pour beaucoup d'observateurs, Boris Johnson ne semble pas prêt. Pas de plan, pas de projet. Et jeudi dernier, à l'occasion d'une conférence de presse, il va stupéfier son auditoire.
Après avoir consulté mes collègues et au vu des circonstances, j'en ai conclu que cette personne ne pouvait pas être moi.
Exit Boris Johnson. C'est son éminence grise, le ministre de la Justice Michael Gove, qui récupère le témoin. Le voilà maintenant dans la course, face à deux autres conservateurs plutôt eurosceptiques. Theresa May, l'actuelle ministre de l'Intérieur, et Andrea Leadsom, la secrétaire d'État à l'énergie. Les deux finalistes au poste de Premier ministre devraient être désignés le 12 juillet prochain par les députés. Les 150 000 militants se prononceront, eux, le 9 septembre. Dans les autres partis, le référendum a également créé une profonde confusion. D'abord, il y a Nigel Farage, le leader de l'UKIP, le parti eurosceptique, maintenant 21 ans que cet ancien trader égratigne l'Europe dans les couloirs du Parlement européen. Il a mené une campagne agressive et c'est sans doute le grand vainqueur du référendum. Mais ce matin, à la surprise générale...
Pendant la campagne, j'ai dit que je voulais récupérer mon pays. Aujourd'hui, je veux récupérer ma vie et ça commence dès maintenant.
Chez les travaillistes, la situation n'est pas forcément plus claire. James Corbyn, le leader contesté du Labour, a fait campagne contre le Brexit, mais du bout des lèvres. Il vient donc d'essuyer un vote de défiance de son parti, mais James Corbyn refuse de tirer sa révérence. « Pour l'amour de Dieu, démissionnez !» lui a lancé David Cameron il y a quelques jours. Sans effet pour l'instant.
Voilà donc pour ce sujet signé Jean-Baptiste Huette. Alors de ce dossier politique, mais pas seulement, encore une fois, on parlera notamment des bourses et de l'attractivité potentielle des autres places européennes. Eh bien, on en parle donc ce soir avec Sophie Loussouarn. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous, spécialiste de la Constitution et de l'économie britannique. Vous êtes également auteur de David Cameron, un conservateur au XXIe siècle, publié chez Séguier. Arnaud de Bresson, bonsoir.
Bonsoir.
Merci également, délégué général de Paris Europlace. Et Christopher Dembick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, en ce qui vous concerne, responsable de la recherche macroéconomique pour Saxo Bank. Alors, madame, messieurs, on va donc commencer par cet aspect politique. C'est vrai que jour après jour, ce sont des démissions qui se succèdent. On pensait que les choses étaient quasiment jouées. Ça n'est pas du tout le cas au final.
Non, en fait, ce Brexit a créé une onde de choc dans le kaléidoscope politique britannique et a créé le malaise aussi bien au Parti conservateur qu'au Parti travailliste. Alors évidemment, avec la démission du Premier ministre David Cameron,
qui était attendu, de toute façon.
Qui était attendu, puisqu'il était impossible que le Premier ministre, ayant perdu le référendum, négocie les nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc finalement, on attendait le grand favori, Boris Johnson, qui a donné sa démission jeudi 30 juin face au coup fatal que lui avait porté Michael Gove en annonçant qu'il lui retirait son soutien et qu'il se présentait comme candidat à la tête du Parti conservateur, car il estimait que Boris Johnson n'avait pas l'envergure et la carrure pour être Premier ministre du Royaume-Uni.
Vu de France, c'est vrai ou c'est pas vrai ?
Écoutez, je pense qu'en effet, Boris Johnson a, par opportunisme, fait campagne pour le Brexit, alors qu'il aurait très bien pu se rallier au camp du maintien. Et c'est finalement son ambition dévorante de succéder à David Cameron, sans avoir pour autant un plan pour renégocier les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui l'ont conduit à soutenir le Brexit. Mais lorsqu'il était maire de Londres, il a toujours travaillé avec l'Union européenne. Il a commencé sa carrière à Bruxelles. Donc, il était assez paradoxal de tenir cette position. Alors, ensuite, Michael Gove a eu l'attitude d'un traître. On se trouve dans une tragédie shakespearienne avec Brutus qui porte un coup fatal à son ennemi. Et aujourd'hui, il fait figure d'assassin. Et donc, finalement, en même temps, sa candidature est très controversée. Mmh. Aujourd'hui, la grande favorite est Theresa May, la ministre de l'Intérieur de David Cameron pendant 6 ans, qui est une femme d'expérience, une dame d'acier, qui incarne la stabilité, qui veut rétablir la confiance des investisseurs, qui veut aussi lutter contre les inégalités sociales, qui incarne une image différente du Parti conservateur. C'est une fille de pasteur, une petite fille de militaire, une grande de anglicane. Oui.
Elle a réellement ses chances aujourd'hui. Vous dites qu'elle fait figure de grande favorite.
Écoutez, je pense qu'elle a ses chances, bien qu'elle ait fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et alors évidemment, se pose. Alors c'est elle qui a le plus de soutien parmi les députés britanniques à la Chambre des communes, puisqu'aujourd'hui elle dispose du soutien de 104 députés, alors que les autres candidats, Michael Gove, n'a que 25 soutiens parmi les députés. Et Andrea Leadsom, qui est en train de monter, car cette secrétaire d'État à l'énergie, qui a peu d'expérience ministérielle, puisqu'elle n'a été ministre que depuis 2 ans, elle était banquière d'affaires dans la City. Elle a donc une bonne connaissance du monde de la finance et du monde des affaires.
Il y a des gens comme ça qui peuvent devenir ministre et ça
voilà.
Peut bien se passer. Hein.
Cela dit, elle a fait campagne pour le Brexit. Elle était favorable à une réforme des institutions européennes. Aujourd'hui, elle a le mérite d'être une personnalité politique nouvelle.
Elle serait la première femme, depuis Margaret Thatcher, à devenir Premier ministre.
Alors, oui, tout à fait. Donc, finalement, ce n'est pas une dame d'acier. Elle a dit, dimanche, « Je pense que je peux être la nouvelle Margaret Thatcher ». Alors, je ne sais pas, c'est à double tranchant, parce que Margaret Thatcher est quand même controversée au Royaume-Uni.
On va revenir sur ces élections qui se profilent. Arnaud de Bresson, cette instabilité politique aujourd'hui, c'est ça qui inquiète le plus ?
Écoutez, nous, du point de vue des marchés financiers, les contacts que nous avions eus préalablement à la campagne du Brexit, les contacts des gens éclairés, connaissant la situation britannique, était particulièrement clair sur le fait que, en réalité, Brexit ou pas, la situation politique de la Grande-Bretagne était d'une fragilité extrême, ce que nous avions d'ailleurs du mal, nous, à percevoir de France à ce point, avec une division très forte au sein de l'opinion britannique entre les partisans du Leave et les partisans du Remain, et avec l'idée que, dans les deux cas de figure, Brexit c'était la catastrophe que nous voyons se profiler pour la Grande-Bretagne. Et Brimain, avec une majorité étroite, c'était également en réalité la poursuite d'une situation de fragilité qui fait que les grandes maisons internationales, les grandes banques internationales, les grands investisseurs nous disaient, quoi qu'il arrive, nous réfléchissons à la nécessité de rééquilibrer nos activités et nos implantations vers l'Europe continentale. C'est, vous avez, vous, Place de Paris, une carte magnifique à jouer, si bien entendu vous nous prouvez que vous souhaitez nous accueillir, ce que nous souhaitons aujourd'hui voir se confirmer, y compris du côté des pouvoirs publics en France.
On imagine, et on va en parler. Christopher Dembick, même question, encore une fois un responsable de la recherche macroéconomique pour Saxo Bank. C'est aujourd'hui, j'allais dire l'unique, une fois que le choc du Brexit est passé, une fois que les bourses sont ont dévissé les 2-3 premiers jours et qu'elles se sont reprises. D'ailleurs, est-ce que, question annexe, est-ce que c'est une surprise, cette reprise aussi rapide des bourses et des différentes places boursières?
Pas complètement, parce qu'en fait, tout d'abord, il y avait et les marchés financiers avaient assez mal intégré la perspective de Brexit. Personne ne s'y attendait, donc il y a eu un effet de panique
vendredi. On se rappelle que le jeudi et même le mercredi, les bourses étaient plutôt bien orientées.
Tout à fait, très bien orientées, en hausse. Donc le vendredi, on a répercuté finalement l'annonce que personne n'attendait. Et ensuite, ce qui est important de voir, c'est que finalement, depuis 2007-2008, depuis la crise financière mondiale, on a systématiquement les banques centrales qui interviennent. Elles mettent des liquidités sur la table, donc ça rassure automatiquement les investisseurs. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs vendredi, la Banque d'Angleterre est intervenue, la Banque nationale suisse également. On a eu le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui est apparu à la télévision très tôt le matin. Finalement, ça a permis de stabiliser la baisse. Et ensuite, on a eu un effet de rattrapage, tout simplement parce que les prix étaient attractifs. On a eu une telle chute qu'automatiquement, beaucoup d'investisseurs ont acheté à ce moment-là.
Des achats à bon compte, en fait.
Des achats à bon compte, tout à fait. Et notamment sur les valeurs bancaires qui ont été parmi les principales cibles, au final, de cette forte baisse des cours. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours une incertitude parmi les investisseurs. Mais lorsqu'on discute avec les investisseurs, j'étais encore il y a quelques jours de cela au Luxembourg, globalement, il faut bien reconnaître que le Brexit n'est pas la première incertitude pour ceux qui investissent sur le marché financier.
L'incertitude, c'est politique ?
C'est au final un autre problème, ce serait surtout la monnaie chinoise. Comme l'été dernier, on avait connu ces remous-là, et c'est bien plus cet aspect-là qui inquiète les investisseurs en bourse que le Brexit et le processus politique incertain qui s'ouvre.
Sophie Lussouarn, quel est le calendrier là dans les mois à venir, parce qu'on ne compte pas en jours et on compte encore moins en semaines, tout ça va se passer en mois, voire en années même.
Oui, alors ça dépendra du candidat qui sera élu à la tête du Parti conservateur. Andrea Leadsom est déterminé à lancer le processus d'exit très rapidement. Elle veut invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne dès son élection.
Et pour le moment, elle est à peu près la seule à vouloir aller vite.
Et elle estime que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront renégociées au printemps 2017. Ça paraît très hasardeux. Alors, elle serait plutôt favorable à une formule espace économique européen, une formule à la norvégienne. Oui. Parce qu'elle n'a pas peur de la libre circulation des personnes. En revanche, cette solution est exclue par Theresa May, qui a compris le message des Britanniques, qui ont quand même manifesté leur peur de l'immigration. Et donc, on peut percevoir que Michael Gove ou Theresa May opteraient plutôt pour un accord bilatéral de libre-échange, qui poserait évidemment beaucoup de problèmes au Royaume-Uni, puisque ça l'exclurait du marché unique.
Ouais, Christopher Dembick, tout ça vous semble probable et possible ?
En tout cas, en termes de négociations, ça va être une période très difficile qui va s'ouvrir, parce que le nouveau Premier ministre, peu importe au final le camp qu'il aura soutenu pendant la campagne, sera confronté à une situation où, dans tous les cas, les solutions qui seront offertes seront au désavantage du point de vue économique du Royaume-Uni. Parce que dans le meilleur des cas, on aura le Royaume-Uni qui transposera les directives du point de vue européen, donc il y aura accès en échange au marché commun, mais dans le même temps, il n'aura plus la capacité d'influencer sur les directives, ce qu'il a aujourd'hui en faisant partie de l'Union européenne.
Arnaud Bresson, il faut aller vite, les 27 veulent aller vite, il faut aller vraiment vite.
Oui, et je rappelle d'abord que la place de Paris a une attitude très, très amicale à l'égard de la City de Londres.
Il n'y a pas sur une ambulance.
Voilà, et nous étions d'ailleurs très favorables au Brimain. Nous l'avons dit, Gérard Mestrallet, qui préside Paris Europlace, l'a répété, a signé la pétition des présidents d'entreprises françaises. Nous nous sommes exprimés parce que nous sommes des Européens convaincus et parce que pour nous, l'enjeu pour l'Europe à moyen et long terme, c'est évidemment sa place dans la compétitivité mondiale et la Grande-Bretagne en fait partie. Maintenant que la Grande-Bretagne a voté le Brexit, nous l'avons dit, Nous avons mis en place, il y a plusieurs mois, une commission qui a été présidée par Christian Noyer pour étudier les différents scénarios, justement, de la négociation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a voté le Brexit. Il faut maintenant aller vite. Les marchés financiers, les marchés économiques, l'économie mondiale ne supportent pas l'incertitude. Avoir la perspective d'attendre plusieurs mois pour savoir quel va être le statut de la relation est un problème. Nous souhaitons aller vite, nous souhaitons que l'article 50 de traité de l'Union européenne soit mis en place pour mettre en place les nouvelles relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et nous avons dit que notre souhait, c'est que la Grande-Bretagne ne dispose pas d'un statut spécifique dérogatoire. L'Union européenne peut négocier un bon accord de libre-échange sur une base où la Grande-Bretagne respecte des engagements budgétaires vis-à-vis de l'Europe et la régulation, level playing field, comme on dit, c'est-à-dire égalité de concurrence, nous aurons fait un pas en avant. Si ce n'est pas le cas, si la Grande-Bretagne refuse de continuer à contribuer financièrement au budget et qu'elle souhaite un accord particulier, eh bien, à ce moment-là, nous disons non. La commission Noyer a dit non. Elle aura le statut d'un pays tiers, comme les États-Unis, comme le Japon, les pays, j'allais dire, normaux, avec lesquels l'Union européenne entretient des relations normales. Et à ce moment-là, elle ne bénéficiera plus du passeport européen, ce qui constituera un handicap de compétitivité important pour la City et pour les établissements qui y travaillent, avec la nécessité de développer leurs implantations dans l'Union européenne.
Sophie Lussouarne, on a l'impression, comme ça, vu de loin, que les 27 s'agitent en disant « bon, maintenant, faut y aller, faut appuyer sur le bouton ». En gros, donc, déclencher ce fameux article 50. Au final, si on y regarde de près, est-ce que ça ne sont pas les autorités britanniques qui, là, aujourd'hui, ont les cartes en main ? Elles font un peu près ce qu'elles veulent.
Ah oui, les autorités, le chef, le nouveau chef du Parti conservateur qui deviendra le futur Premier ministre, mettra en place, invoquera l'article 50. Donc, le calendrier sera décidé par le nouveau Premier ministre. Et en ce qui concerne Theresa May, elle ne veut pas se précipiter parce qu'elle estime qu'il faut prendre en compte la situation politique européenne, notamment les échéances électorales en Allemagne et en France. Et elle veut négocier au mieux les intérêts britanniques, en prenant en compte les forces et la division de son parti. Entre les 130 députés qui ont voté pour le Brexit et les autres qui ont voté pour le maintien. À la Chambre des communes, la majorité des députés ont voté pour le maintien. Le problème, c'est que l'élection à la tête du Parti conservateur ne sera pas décidée par les députés à la Chambre des communes, mais sera décidée par les membres du Parti conservateur. Et au sein du Parti conservateur, vous avez de forts clivages entre les habitants de Londres, le monde des affaires, la finance qui a voté pour le maintien, et puis les personnes âgées habitant dans les campagnes qui ont voté pour le Brexit. Donc on trouve un clivage social, générationnel et géographique.
Christopher Dembick, ce chronomètre là qui passe, au final, il joue pour qui ? Parce que les inquiétudes restent de la part des entreprises étrangères qui doivent hésiter aujourd'hui quand même à aller s'implanter ou à investir. Donc là, mine de rien, les autorités britanniques marchent quand même sur un fil.
Elles marchent sur un fil. Pour l'instant, ça avantagera certainement plus le Royaume-Uni, il faut bien le reconnaître. Mais lorsque l'article 50 aura été actionné, le rapport de force sera complètement inversé. Puisque économiquement parlant, en tout cas, le Royaume-Uni est plus dépendant de l'Union européenne qu'inversement. Pour vous donner juste un chiffre, en termes d'exportation du Royaume-Uni vers l'Union européenne, ça représente à peu près 13 à 14% du PIB britannique. Mm-hmm. À l'inverse, les exportations de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, c'est simplement 4 à 5% du PIB européen. Donc en termes de négociation, très clairement, l'Union européenne aura une vraie carte à jouer. Mais bien sûr, on sait que l'un des soucis, et ça c'est politique, c'est que l'Union européenne apparaît souvent très divisée.
Alors, évidemment, les autorités britanniques tentent du coup de se ressaisir et de rendre attractive leur pays. Des mesures ont été prises ou vont l'être, notamment, on pense à celle annoncée par George Osborne ce matin, ministre britannique des Finances, qui prévoit d'abaisser son taux d'imposition au-dessous de 15% pour les entreprises britanniques. C'est du moins ce qu'a affirmé le Financial Times. C'est une mesure qui tente à réduire notamment l'écart avec l'Irlande, puisque l'Irlande voit un taux d'imposition qui plafonne à 12,5%. Sur ce sujet avec Dorothée Balzan. On retrouvera Dorothée dans quelques instants. Dorothée Balzan donc qui nous explique pourquoi George Osborne veut prendre des mesures rapides, notamment, en gros on parle là de dumping fiscal.
Le Royaume-Uni avait déjà un taux d'impôt sur les sociétés attractif, 22%, bien en dessous de la moyenne européenne de 30%. Et ce taux pourrait encore baisser fortement sous les 15%. Dans son interview au Financial Times ce week-end, le ministre des Finances, George Osborne, dit vouloir faire du Royaume-Uni une économie super compétitive. Objectif, éviter l'hémorragie. Plusieurs entreprises s'inquiètent. En ayant leur siège à Londres, elles ont peur de perdre l'accès au marché unique. Les compagnies aériennes EasyJet et IAG, la maison mère de British Airways, ont publié des avertissements sur leurs résultats. Certaines réfléchissent à délocaliser leur siège, par exemple à Dublin. L'Irlande possède trois gros atouts, l'appartenance à l'Union européenne, la langue anglaise et le taux d'impôt sur les sociétés le plus bas d'Europe à 12,5%.
Voilà donc cette mesure souhaitée par George Osborne. Arnaud Bresson, j'évoquais le mot de dumping fiscal, on y est là, c'est clairement du dumping fiscal.
Oui, j'ai retenu le terme « éviter l'hémorragie », qui est le terme important dans ce que la décision qui a été prise par M. Osborne ce matin. J'en conclus et nous en concluons que cette annonce, qui est une annonce musclée, la Grande-Bretagne envisageait de baisser son taux d'impôt sur les sociétés en 2020 à 17%. Mmh. Elle accélère 15% tout de suite. Montre l'extraordinaire nervosité et fragilité dont on parlait tout à l'heure de la situation en Grande-Bretagne, qui fait que pour éviter effectivement l'hémorragie des entreprises, le gouvernement britannique est obligé de prendre dans l'urgence une annonce assez significative. Alors, cela veut dire quoi pour nous ? Comme je le disais tout à l'heure, depuis des mois, nous sommes en contact avec des grandes entreprises internationales, financières, des banques, des fonds d'investissement, qui savaient qu'en cas de Brexit, notamment, il fallait étudier de développer leurs implantations dans l'Union européenne. Depuis l'annonce du Brexit, je peux vous dire que toutes ces banques internationales accélèrent leur plan d'analyse pour voir quel est le bon lieu d'implantation entre Paris, Francfort, les places financières spécialisées. Paris a des atouts majeurs. Paris, la place de Paris s'appuie sur la 5e économie du monde. C'est une place financière extrêmement diversifiée et pas une place spécialisée comme Dublin ou Luxembourg qui sont très spécialisées sur les activités de gestion administrative des fonds. Nous avons la présence de grandes entreprises internationales qui sont les clients des banques. Et d'ailleurs, elle compare Paris en termes de clients, alors que Francfort est plutôt une ville de banque qui sont leurs concurrents. Et ces entreprises sont des acteurs très actifs sur les marchés financiers. Nous avons un pôle d'investissement de 3 000. Donc nous avons, comme les Anglais disent, quelques major cards. Mais cela ne suffit pas. Il va falloir, dans les prochains mois,
faire plus.
Consolider, faire plus. Et ce que nous souhaitons, ce que nous attendons dès cette semaine de la part des pouvoirs publics, nous avons notre grand forum international avec 2000 participants mondiaux demain et après-demain, le 5 et le 6. Nous attendons un signal de la part des pouvoirs publics pour confirmer l'engagement des pouvoirs publics français à avoir une stratégie d'attractivité de ces entreprises internationales qui vont immanquablement développer leurs activités en Europe et donner des signaux dans un premier stade, de nous aider à consolider une vraie stratégie pour la place de Paris dans le long terme, comme nous avons déjà eu l'occasion de préciser les axes prioritaires.
On verra quels peuvent être d'ailleurs ces signaux. Christopher Denbigh, est-ce qu'on sait concrètement aujourd'hui combien d'entreprises seraient susceptibles de quitter le territoire britannique ?
Déjà, je pense qu'il faut éviter l'aspect panique. On ne va pas avoir des cohortes de banquiers qui vont se ruer, que ce soit à Paris ou à Francfort. Ce qui est important de souligner, il y avait aussi une part importante de lobbying de la part des entreprises lorsqu'elles disaient qu'elles allaient délocaliser si le Brexit allait l'emporter. Le fait est que la place de Londres reste toujours extrêmement attractive. Lorsqu'on discute,
c'est la plus grande du monde, hein, devant.
C'est la
devant
plus grande du monde, tout à fait. Donc ça reste très attractif. Vous avez notamment accès, par exemple, à des contrats pour échanger dans des monnaies, notamment la monnaie chinoise qu'on ne trouve pas sur d'autres places financières. Donc c'est très attractif. Et une économie qui reste malgré tout dans tous les cas solide. Elle pourra peut-être traverser une courte récession, mais elle restera dans tous les cas très solide. Ce qui est important de souligner, c'est comment on peut essayer de faire parvenir les entreprises dans d'autres pays. Et justement, je pense que Paris est surtout en confrontation avec Francfort, le Luxembourg pour d'autres raisons. Mais le vrai point, ça reste du côté français, les incitations fiscales. Comment voulez-vous que des banquiers, en prenant en compte la taxation sur les bonus, aillent s'installer à Paris ? Ça me paraît assez aberrant.
Sophie Lussouarn, je vous donne la parole dans un instant. On marque avant une petite pause en plein cœur de ces décodeurs de l'écho. On continue donc ce débat autour du Brexit et notamment donc savoir si... Christopher Dembick nous disait non, hein, il ne faut pas s'attendre à un exode massif des entreprises. On verra quand même ce que peuvent faire les autorités britanniques, notamment donc en multipliant ou pas les annonces comme celles qui ont été faites ces dernières heures. C'est à suivre donc sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. David Dobat reçoit les décodeurs de l'écho.
BFM Business, deuxième partie, donc 10 jours après le Brexit. On fait le point, on a beaucoup parlé de la politique avec cette incertitude et ce qui semble même désormais être la plus grosse incertitude de suite à ce Brexit. Mais on s'intéresse là aux mesures qui ont été annoncées ou qui vont être annoncées, parce que on peut imaginer qu'il y en aura d'autres qui seront faites dans les jours ou les semaines à venir. On en parle donc avec Sophie Loussouarn, spécialiste de la Constitution et de l'économie britannique. On en parle avec Arnaud Bresson, délégué général de Paris Europlace, et avec Christopher Dembick, qui est responsable de la recherche macroéconomique pour Saxo Bank. Juste avant la petite pause, Sophie Lussouane, j'avais promis de vous donner la parole, c'est donc chose faite.
Oui.
Cette annonce de George Osborne, c'est
fondamental.
Et il la sort du chapeau comme ça ?
Alors, il veut tout d'abord rendre l'économie britannique encore plus compétitive, la rendre ouverte,
on parle même de super
la rendre dynamique, oui. Deuxièmement, il veut attirer les investisseurs chinois qui ont suspendu leurs investissements pendant cette période d'incertitude de la campagne. Troisièmement, il veut redoubler les investissements dans le nord du Royaume-Uni qui a voté pour le Brexit. Et ensuite, il veut maintenir la crédibilité fiscale du Royaume-Uni. Progressivement, depuis 2010, il a abaissé l'impôt sur les sociétés, ce qui a rendu en effet l'économie britannique excessivement attractive pour les investisseurs étrangers. Et le Royaume-Uni est une des destinations privilégiées des investisseurs étrangers.
On est passé de 28% à 20% et donc là autour de 15%.
Voilà, oui, moins de 15%.
Moins de 15%.
Pour rivaliser justement avec l'impôt sur les sociétés irlandais. Alors, je crois que George Osborne veut rebondir et adapter l'économie britannique pour éviter une récession comme celle de 2008 et 2009. Mmh. Et en même temps, il veut montrer qu'il a une solution crédible pour maintenir l'économie britannique ouverte et dynamique et pour se maintenir comme ministre des Finances dans le nouveau gouvernement, voire comme ministre des Affaires étrangères.
C'est-à-dire que là, en fait, il y a un double coup du chapeau. Voilà. C'est-à-dire que il joue perso, parce qu'il y a aussi son avenir qui l'intéresse, et puis il tente quand même de sauver ce qui peut l'être.
Je pense que ce qui prime, c'est l'intérêt national. Toujours. Et puis, l'adaptation de l'économie britannique à ce nouveau contexte. Il avait mis en garde contre les dangers du Brexit. Aujourd'hui, il met en avant que le peuple britannique en a décidé autrement et qu'il faut donc adapter l'économie britannique pour tirer parti de ce Brexit. Et donc, y engager des accords bilatéraux avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Canada, avec la Chine, avec l'Inde. Et le Royaume-Uni a des atouts, puisqu'il a son Commonwealth, comme le disaient les partisans du Brexit. Et c'est un des cercles majestueux dont parlait Winston Churchill dans son discours de l'an du dno. Et aujourd'hui, ce sera la relation transatlantique et la relation avec le Commonwealth prévaudra peut-être sur la relation avec l'Union européenne.
Mais Arnaud Bresson nous rappelait tout à l'heure qu'il y avait des craintes, des inquiétudes, mais pas de mouvement de panique pour le moment. Christopher Dembick, est-ce qu'il ne sort pas cette mesure, George Osborne, un peu trop tôt ?
Non, pas vraiment, parce que l'un des gros risques aujourd'hui en termes de dynamique économique, on parlait de risque de récession, la Banque d'Angleterre l'a d'ailleurs évoqué, c'est que les entreprises britanniques cessent d'investir, donc ça aurait un impact négatif sur la croissance. Donc automatiquement avec cette mesure, c'est une sorte de mesure compensatoire pour que les entreprises britanniques continuent d'investir, sachant que globalement, le panorama économique britannique, il est assez bon. Par exemple, juste si on regarde sur le taux de chômage et l'emploi, on a un taux d'emploi record au Royaume-Uni. Donc on est sur une trajectoire qui est très bonne. Il y aura indéniablement un ralentissement économique, peut-être même dans le pire des cas, récession quelques mois, mais on est très loin d'un scénario catastrophe. J'oserais dire, s'il y a un seul pays qui pouvait sortir de l'Union européenne sans trop de dommages, aujourd'hui, ce serait bien le Royaume-Uni.
Est-ce qu'il faut s'attendre ? Oui, j'imagine, je vous pose une question, mais je connais à peu près la réponse, mais alors je vais la tourner différemment. À quoi faut-il s'attendre d'autre, selon vous, comme mesure annoncée ?
Alors, on pourrait envisager une baisse des taux d'intérêt. Et Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a envisagé encore de baisser les taux d'intérêt qui sont historiquement bas, à 0,5%. Le Royaume-Uni bénéficiera également de la chute de la livre de 10%, qui va bénéficier aux exportations britanniques. Donc, mais ça ne durera pas. Donc il faut vraiment, je crois, attirer les investisseurs étrangers. Et c'est là que cette baisse de l'impôt sur les sociétés était fondamentale. Et d'autres mesures seront annoncées au moment de l'Autumn Statement par le nouveau gouvernement qui prépare donc le budget de 2017.
Alors, de toute façon, la livre évoquée là, il y a un instant, elle est au plus bas là, en ce moment. Mais voilà, encore une fois, ça ne va pas durer.
Oui, ça, c'est possible que ça ne dure pas. Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qui ont été faits et je les prolonge. On nous disait, certains nous disaient depuis le Brexit, attention, ne tirons pas sur l'ambulance, la Grande-Bretagne est atteinte, c'est pas le moment d'aller lancer des annonces de compétitivité pour la France, nous devons coopérer avec nos amis anglais, ceux que nous partageons sur l'objectif de long terme. Mais je ne vois pas aujourd'hui où est l'ambulance, ou plutôt je constate que l'ambulance, elle fonce très vite pour reprendre pied, que la Grande-Bretagne, comme on s'en doutait, n'est pas restée les pieds dans le même sabot et qu'elle s'adapte immédiatement avec une rapidité folle pour reprendre une stratégie d'attractivité. Et donc nous devons faire la même chose pour la France. Nous sommes d'ailleurs, et Francfort, Amsterdam ont annoncé également des campagnes, des plans d'action. Il est donc vital que nous accélérions également de notre côté. La bonne nouvelle, c'est que nous avons, une fois n'est pas coutume, une sorte d'union sacrée, droite-gauche, que nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'exprimer le 8 juin dernier, car nous avions eu le pif, pardonnez-moi cette expression, d'organiser un forum sur justement le scénario Brexit-Brimel, d'y associer la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui de manière unanime se sont exprimées pour montrer leur engagement à soutenir l'attractivité de la place financière. Il faut renouveler aujourd'hui cet engagement avec les pouvoirs publics. C'est ce que nous attendons dès cette semaine, pour annoncer des premiers signaux. La question des signaux est essentielle. Les entreprises internationales y seront très attentives.
Mais ces signaux,
et engager ensuite une vraie stratégie de long terme pour la place de Paris.
Ces signaux, ça peut être quoi? Ça peut être comme le fait Madrid, des exonérations fiscales annoncées, clairement annoncées. C'est ça
nous,
que vous souhaitez?
Nous avons fait des propositions. Nous avons fait des propositions sur trois thèmes. Premièrement, renouveler un engagement de la France meilleur pour plus de stabilité fiscale, car en permanence, les investisseurs mondiaux nous reprochent une instabilité chronique. Donc c'est un premier sujet. Le ministre, d'ailleurs, Michel Sapin, dans le comité Place de Paris 2020, dans lequel nous travaillons ensemble, a déjà adopté des mesures pour supprimer la rétroactivité fiscale dans le milieu des affaires en France. C'est une bonne mesure, il faut aller un cran plus loin. Nous avons demandé une amélioration du régime des cadres impatriés qui permet à la place de Paris d'attirer des cadres internationaux, de faire venir des cadres français qui sont partis depuis un certain temps et de pouvoir bénéficier d'un statut incitatif qui compense d'ailleurs leurs dépenses liées à l'impatriation. Ce système existe. Il fait qu'aujourd'hui, contrairement à l'image, il est moins cher, le coût d'un exécutif de haut niveau dans les banques et internationales ou françaises est moins élevé à Paris qu'à Londres. Il faut prolonger ce système dans la durée. Nous avons demandé un signal et puis nous avons demandé également un signal sur la taxe sur les salaires, qui est une taxe sur l'emploi financier, et justement sur l'impôt sur les sociétés, qui est à 32% en France, au moment où il va passer à 15% en Grande-Bretagne.
Alors pardon, je vais me faire l'avocat du diable, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que 2017 est une année d'élections, que généralement pendant les élections, il ne se passe absolument rien. Est-ce que donc là, en termes de calendrier, il n'y a pas quand même un problème pour attirer les entreprises étrangères en disant, regardez comme on est attractif? Oui, mais bon, là, on rentre dans une période d'instabilité.
Nous savons que l'envoi d'un signal est déjà un point essentiel. Ce que les grandes banques internationales savent, que la France va entrer dans une période électorale, on n'attend pas malheureusement la réforme structurelle dont nous avons besoin dans les trois semaines qui viennent. Donc un signal dans l'immédiat. Deuxièmement, que les équipes de campagne de la présidentielle prennent en compte maintenant l'enjeu de développer une place financière qui d'ailleurs concerne le sujet de la souveraineté économique de notre pays. Nous avons confié l'avenir de nos nos entreprises à des investisseurs étrangers. Il faut impérativement rééquilibrer la part prise par les investisseurs étrangers et le développement d'une épargne en France investie dans les entreprises qui va nous permettre de retrouver notre souveraineté économique qui était le sujet de la manifestation d'Aix-en-Provence et du cercle des économistes de ce week-end. Nous sommes la manière concrète de mettre en place l'objectif que souhaitent les économistes de retrouver une souveraineté économique plus forte de la France.
Concrètement et de manière chiffrée, combien d'entreprises espérez-vous attirer sur la place parisienne ?
Alors, nous avons quelques estimations chiffrées. D'abord, il y a un certain nombre d'activités que nous avons listées. Il y a les activités de trading sur les marchés actions, sur les marchés d'obligations d'entreprise. La place de Paris est la première en Europe, devant Londres, avec 35% de marché sur les obligations d'entreprise, puisque les entreprises sont à Paris. Dans ce domaine, on peut voir grossir les équipes près des entreprises qui sont ici. Il y a tout ce qui concerne le pôle de gestion d'actifs, où la place de Paris est numéro 2 mondiale. Les sociétés de gestion internationales à Londres, américaines y compris, j'allais citer des noms, sont en train de réfléchir à rééquilibrer vers l'Europe. Et le capital investissement, pour lequel nous avons plus de fonds aujourd'hui de early stage, de financement de start-up, 30 fonds avec un capital supérieur à 30 millions d'euros contre 27 à Londres et 13 à Francfort. Ce sont des domaines sur lesquels nous... Et enfin, le fameux sujet de la compensation du règlement de livraison. L'Angleterre, sortie de l'Union européenne, si cela se confirme, l'Europe ne peut plus reposer sur un pays hors de l'Union pour organiser la compensation, c'est-à-dire la gestion des opérations concrètes
évidemment
sur sa monnaie.
Mais je vous repose ma question. En termes de chiffres, c'est quoi ? C'est quelques-unes, moins d'une dizaine, entre 10 et 30, une cinquantaine, une centaine ?
Nous avons chiffré à 30 000 les effectifs concernés par les activités euro sur la place de Londres, susceptibles de relocaliser en Europe. Il s'agit en réalité de 10% de l'ensemble de la main-d'œuvre à Londres qui traite sur la monnaie euro. Donc 30 000 personnes, c'est, j'allais dire, un minimum pour notre objectif en termes de relocalisation possible.
Christopher Dembick, on entendait tout à l'heure Dorothée Balzan qui nous rappelait qu'il y avait d'ores et déjà des entreprises qui avaient tiré la sonnette d'alarme et annoncé des profit warnings. C'est le cas d'EasyJet, c'est le cas de DIJ. Très franchement, il n'y a pas un peu de com' derrière tout ça ? C'est pas un peu tôt, là, 10 jours après, pour nous dire « ça y est, regardez, nous déjà, c'est la catastrophe ?»
Si, très clairement, parce que dans tous les cas, que ce soit pour les entreprises ou du point de vue, par exemple, de la croissance économique, personne n'est aujourd'hui en mesure de quantifier l'impact éventuel du Brexit. Parce que tout simplement, il est beaucoup trop tôt. Vous avez des multiples estimations du FMI, de Bloomberg, etc. Elles sont toutes différentes. Il faudra attendre, savoir ce qui va se passer, quelles vont être les relations, le processus qui va s'enclencher dans les prochains mois. On aura un peu plus de visibilité. Mais aujourd'hui, très clairement, il ne faut pas du tout être catastrophiste. Finalement, je vous avoue que vendredi, lorsqu'on a eu le résultat du Brexit, j'avais un peu l'impression qu'on était face à une nouvelle crise financière. Force est de constater que dès lundi, ça s'est rapidement apaisé.
C'est pas la Grèce non plus, hein.
Ce n'est pas la Grèce non plus. On n'est pas sur la crise des subprimes comme en 2007-2008. Donc, on est simplement, il faut être vigilant. Il faut être, je pense, avoir une attitude en faveur de davantage d'attractivité, parce que finalement Paris va être en compétition avec Luxembourg et Francfort. Donc ce sont aux autorités politiques, puisque manifestement les solutions sont là dans les milieux financiers, qui doivent agir. La question, c'est de savoir si Bercy a réellement un plan pour favoriser davantage l'attractivité de la place parisienne. Là, je suis dubitatif.
Et cette déclaration de Christine Lagarde qui dit que suivant les hypothèses, le PIB britannique perdra entre 1,5 et 4,5% à l'horizon 2019. Sophie Lussouarn.
Ça, tout dépendra de la politique mise en œuvre. Et je pense que aujourd'hui, justement, la décision de George Osborne d'abaisser l'impôt sur les sociétés est une très bonne annonce pour le milieu des affaires, pour les investisseurs étrangers. Ça va attirer les investisseurs étrangers qui étaient incertains. Ça va attirer encore davantage les Chinois et les Indiens au Royaume-Uni, qui sont déjà très bien placés. Et puis, je pense qu'il y aura des incitations aussi aux entrepreneurs. Et puis, le gouvernement s'engage à relancer l'investissement dans les nouvelles technologies. Donc, et éventuellement, baisser encore l'impôt sur le revenu pour les hauts revenus, ce qui, en effet, attirerait donc les banquiers, les hommes d'affaires et les inciterait à rester au Royaume-Uni malgré le Brexit.
Oui, Arnaud Bresson.
D'où la nécessité de faire la même chose, c'est-à-dire d'engager également une stratégie de compétitivité, d'attractivité relancée, sinon
notre activité, c'est notre activité qui partira à Londres, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la nécessité absolue pour les pouvoirs publics français de mettre en place un plan d'action pour relancer la compétitivité, la croissance de la France. J'ai compris que le président de la République s'est déclaré dans la presse la semaine dernière, a indiqué d'ailleurs qu'il fallait une politique de relance de la compétitivité fiscale, de la place financière. Vous êtes pessimiste sur Bercy, j'espère que Bercy suivra les recommandations du président de la République. Et juste un mot, parce que vous avez parlé du renminbi, la place de Paris est extrêmement active sur la monnaie chinoise. Nous talonnons la place de Londres en matière de contribution à développer l'utilisation de la monnaie chinoise. D'abord dans les relations entre les entreprises françaises et chinoises commerciales, ce qu'on appelle le trade finance. Toutes les banques françaises et chinoises à Paris ont ouvert des comptes et on a des dépôts en renminbi qui sont plus importants qu'à Londres. Dans le domaine de la gestion d'actifs, et également dans le domaine des marchés, la place de Paris a pris le train de l'internationalisation de la monnaie chinoise à l'origine et nous avons une action soutenue, y compris d'ailleurs de coopération, avec des accords de coopération avec Pékin, avec Shanghai et même depuis peu avec Chongqing, qui concourt également à être une capitale financière en Chine.
D'un mot, vous l'avez entendu comme nous aujourd'hui, hein, ce feu vert donné par les actionnaires du London Stock Exchange au mariage avec la Deutsche Börse, la bourse allemande. Donc qu'est-ce que cela va changer, notamment donc pour Paris? Qu'est-ce que ça peut changer quelque chose?
Alors d'abord, cette annonce n'est pas une nouvelle pour nous, puisqu'à partir du moment où les dirigeants de Deutsche Börse LSE avaient confirmé le lendemain du Brexit leur souhait d'avancer sur ce projet, nous avons assez normalement cette décision prise par les actionnaires du London Stock Exchange, qui sont d'ailleurs, j'allais dire, les plus intéressés à ce projet. Ce que nous disons, c'est que le Brexit a changé la donne.
Mais pour vous, est-ce que ça n'est pas un signe contraire envoyé justement aux investisseurs pour des places comme Paris, comme Madrid, pour des... Voilà, la Deutsche Börse dit OK, nous on veut quand même continuer d'aller à Londres.
C'est le process qui est défendu par le management actuel de Deutsche Börse LSE. La question est de savoir si ce processus va pouvoir aller à son terme. Et vous nous permettrez d'être plus que dubitatif sur le sujet. Le Brexit a totalement changé la donne. Nous ne voyons pas comment une bourse consolidée va pouvoir avoir son siège à Londres. D'ailleurs, les autorités allemandes ont commencé déjà à demander le rapatriement à Francfort. Le problème, c'est que si vous avez lu comme moi la presse britannique, y compris le Financial Times il y a quelques jours, c'est que tout un certain nombre de conditions qui sont contenues dans le projet ont été négociées sans penser au scénario du Brexit. Et comme elles ont un caractère binding, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire liant, ceci est de nature à faire dérailler le projet. Au cas où les autorités de régulation allemandes d'un côté et européennes ne s'en chargeraient pas d'elles-mêmes, compte tenu des risques de mettre en dehors de l'Union européenne une bourse avec toutes les conséquences que cela implique pour la monnaie européenne et l'espace économique européen.
Némique, vous êtes d'accord?
Ah, totalement, effectivement, parce que je pense que ça fera partie en plus des marchandages dans le cadre de la nouvelle accord d'association qui sera négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et surtout, il va y avoir une pression politique qui sera énorme. Il n'est pas dans l'intérêt aujourd'hui pour les responsables politiques européens d'avoir cette fusion qui se réalise alors que les négociations ont même pas commencé. Donc au minimum, ce sera retardé, voire même peut-être stoppé éventuellement en fonction de l'évolution dans les prochains mois.
J'aimerais juste qu'on dise un mot, parce que c'était un chiffre que j'ai découvert en préparant l'émission, ce chiffre de 3 millions de personnes aujourd'hui en Grande-Bretagne travaillent grâce à l'Union européenne. Vous nous rappelez tout à l'heure, Christopher Dembick, qu'il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui en Grande-Bretagne sur l'emploi, même si on sait qu'il y a quand même de grandes disparités entre les emplois, hein. C'est pas non plus le scénario idéal, mais il faut s'inquiéter pour ces 3 millions de personnes.
Alors, je crois que, très clairement, aujourd'hui, le Royaume-Uni a un taux de chômage de 5%, qui est un des plus bas de l'Union européenne. Dans un scénario catastrophe, le taux de chômage pourrait augmenter à 6% en 2017 et à 6,5% en 2018. Mais le Royaume-Uni a un marché du travail excessivement flexible. Et je pense que, là encore, l'économie britannique s'adaptera au Brexit. Le problème se pose, en revanche, pour les ressortissants de l'Union européenne qui travaillent au Royaume-Uni. Quel sera leur statut? Et Theresa May a soulevé ce problème aujourd'hui. Vont-ils pouvoir rester? Devront-ils disposer d'un visa? Quel sera le statut des ressortissants britanniques dans l'Union européenne? Ça, ce sera un problème délicat dans le cadre des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
C'est là où vous avez votre carte à jouer, Arnaud Boisson.
Oui, tout à fait, y compris pour dire aux jeunes de tout pays, et notamment aux jeunes Français qui sont à Londres, venez, on est prêt à vous accueillir à nouveau, tel dans la Bible, le retour de l'enfant prodigue, et nous mettons en place les dispositifs nécessaires. La ville de Paris, d'ailleurs, et Anne Hidalgo elle-même s'est déjà exprimée sur le sujet avec l'idée que le retour des jeunes peut être un objectif. Le développement des start-up de haute technologie en France, qui a un autre atout de la place de Paris, notamment dans le domaine des fintech, que nous encouragerons pour ce qui nous concerne avec notre pôle de compétitivité finance-innovation, est un merveilleux, une merveilleuse opportunité pour attirer des jeunes, faire revenir des jeunes et développer la création d'entreprises de haute technologie qui seront le futur d'une place de Paris rénovée, renouvelée, et puisque par définition, tout, comme toutes les autres industries, l'industrie de la finance va subir une mutation importante. Les Français sont bons dans ce domaine. C'est bien qu'ils aillent à l'étranger. Il y a 20 ans, ils refusaient.
Mais il faut rentrer.
Mais il faut qu'ils reviennent. Et la place de Paris a les bras grands ouverts.
On a bien compris le message. Christopher Dembick sera le mot de la fin. Vous y croyez justement à ce retour de tous ces expatriés qui pourraient donc...
On peut avoir effectivement des retours d'expatriés. Ça, je suis assez d'accord sur cet aspect. On en aura beaucoup plus si, bien sûr, il y a des incitations fiscales qui sont mises en place. Sur les fintech, l'écho que j'ai eu, je ne sais pas si c'est le même que vous avez pu avoir. Le problème, c'est que le régulateur français est un peu trop strict par rapport au régulateur britannique. Donc, ça peut être un point qui va pêcher dans les prochains mois.
Merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir donc pour ce nouveau numéro des décodeurs de l'écho. Sophie Lussouarn, spécialiste de la constitution et de l'économie britannique, également auteur de David Cameron, conservateur au 21e siècle, publié chez Séguier. Arnaud Bresson, le délégué général de Paris Replace. Et Christopher Dembick, responsable de la recherche macroéconomique pour Saxo Bank. Vous restez avec nous, toute petite pause sur BFM Business. Et puis après, nous reviendrons sur le décès de Michel Rocard. Nous essaierons de comprendre avec nos invités quelle trace notamment économique a laissé dans l'histoire de France l'ancien Premier ministre. C'est à suivre.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.